la lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. S'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein là. Plein les commissariats, plein les correctionnels, plein votre vie. Tout le monde a une histoire.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de littérature où seul le style, seuls les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.
Et salut à tous, c'est la rentrée pour l'équipe de Par le bout de la lorgnette. Et comme on est une équipe originale et comme c'est la rentrée, on va parler de rentrée mais littéraire. Salut Héloïse.
Salut, bon, c'est notre petite tradition.
Ben oui, et c'est ce qu'attendent les auditeurs aussi.
Je pense.
je ne te demande pas si tes vacances se sont bien passées.
Et non, je n'ai pas eu de vacances. Et toi, Ludo?
Pas beaucoup non plus. C'est pour ça qu'on va aller voir Popo de suite. Salut Popo.
Salut tout le monde.
Alors toi, tes vacances, un petit tour en Bretagne?
Ouais, c'était super beau. Toute la Bretagne, tout le sud de la Bretagne, c'était magnifique.
Alors, allez-y. Le Morbihan.
Ouais, et ouais, le Finistère même, jusqu'à la pointe.
Est-ce que tu es allé à Nantes, pardon?
Oui, Nantes n'est pas en Bretagne.
Malheur.
Non, mais c'est bien de découvrir une partie de la Bretagne en tant que bretonne que tu ne connaissais pas.
Eh oui, ouais, c'était une belle expérience, je suis contente, c'était chouette.
C'est ça. Salut Valérie.
Mais salut.
Tu es toujours en forme, ça fait plaisir.
Eh ben écoute, je suis tellement heureuse d'être là, de revenir, d'avoir lu plein de livres. Voilà, ça me met la joie.
Ouais, ben on va en parler de ça justement.
Je m'en doutais.
Alors voilà, donc on parle de rentrée, mais pour parler de rentrée, il faut parler de vacances. Et si l'on parle de vacances, il faut parler de devoirs d'été. Je vais donc vous mettre des notes. Nous avions 4 livres à lire pour présenter cette émission. Des livres, il faut le rappeler quand même, enfin du moins l'annoncer à nos auditeurs qui ne le savent pas, des livres qu'on a depuis 3 mois. Popo, 4 livres lus, je te mets un 20 sur 20 avec les félicitations du jury.
Merci.
Bravo, le jury c'est moi.
Elle a quand même fait ses devoirs au dernier moment.
Ils s'en fait quand même. Héloïse, je te mets également un 20 sur 20, bravo aussi.
Merci.
Valérie.
Oui, Ludovic.
Donc, bon, tu as quand même des circonstances atténuantes vu que tu as dû travailler sur des festivals pour la radio.
N'est-ce pas?
Mais tu n'auras quand même que 12 sur 20 avec un blâme.
C'est vrai?
Ouais, et oui, c'est comme ça.
Je m'en fous, je connais le proviseur, j'irai me plaindre.
Ouais, mais oui, vas-y, il n'y a pas de souci. Ah et oui, pour cette rentrée littéraire qui concernera aujourd'hui la littérature française, nous avons décidé de lire les mêmes livres afin de vous les présenter. C'est une petite nouveauté pour cette émission, Héloïse. On ne sait pas si ça se poursuivra, mais au moins pour celle-là,
oui,
c'est
comme
ça.
Oui, on verra parce que ça nécessite quand même beaucoup d'organisation et de temps et on en manque cruellement.
Voilà. On n'est pas organisé, je crois, surtout. On peut appeler un chat un chat.
Voilà. Et quand il y en a qui ne lisent pas tous leurs livres aussi, ça pose
des
problèmes après.
J'ai des circonstances plus qu'atténuantes. Je croyais
qu'elle avait mal écouté la consigne.
Mais voilà, oui, j'avais pas lu la consigne jusqu'au bout. Je croyais qu'on en lisait deux chacun et qu'on switchait.
Eh oui, c'est pour ça que tu finis avec un 12.
Oui, c'est déjà pas mal parce que tu aurais pu me dire 10 vu que j'avais fait que la moitié du travail.
Je t'ai mis un peu plus.
Oui, mais j'ai bien argumenté.
C'est vrai.
Merci.
Alors, on va commencer par notre confrère, si ça vous va, l'auteur Clara Dupont-Monod qui fait des chroniques littéraires sur France Inter et que nous allons à notre tour chroniquer. Donc, c'est un livre qui est dans la sélection du jury du prix Goncourt. D'ailleurs, à ce sujet, bravo Héloïse, sur les 4 livres que tu as choisis, 2 sont dans le prix Goncourt. Et le meilleur des 4 n'y est pas pour moi. Enfin, vu des 3, vu que je n'ai lu que 3 livres. Le meilleur n'y est pas. Donc maintenant, un petit coup de gueule. Les maisons d'édition qui s'entendent pour que leurs livres soient dans la sélection. Il y en a marre. Il faut arrêter de nous prendre pour des buses.
Ouh.
Voilà. C'est fait, ça. Bref, Clara Dupont-Monod, La Révolte, ou l'histoire d'Aliénor d'Aquitaine, brève reine de France, reine d'Angleterre. Une histoire racontée par son fils, Richard Cœur de Lion, qui commence sur ce livre. Non, pas Valérie, je te rappelle que tu as un blâme.
Non, je vais vous servir à manger, à boire. En attendant, je me lève, excusez-moi.
Oui, vas-y. Merci. Donc, qui veut commencer? Alors, il faut préciser déjà que ce n'est pas un livre d'histoire. Le temps raconté, celui qui est ressenti par Richard Cœur de Lion. Alors, l'auteur s'est quand même appuyé sur des historiens. Il y a une trame historique. Elle a pris quelques libertés, d'ailleurs, qu'elle explique à la fin du livre. Et donc, c'est un échange entre elle, Aliénor d'Aquitaine, Richard Cœur de Lion, avec des correspondances, avec Aliénor qui parle, Richard Cœur de Lion qui parle quelquefois. C'est quelque chose de renoncé. Popo, je crois que tu as aimé ce livre.
Ah, j'ai adoré. Je pense que, alors, j'hésite entre 2 coups de cœur, mais vraiment, celui-là, c'est dans le style que j'aime. Alors, bon, j'aurais pas envie de rencontrer Aliénor d'Aquitaine parce que je pense qu'elle me foutrait une trouille bleue, parce que c'est, enfin, elle est décrite dans ce bouquin comme un personnage hyper impressionnant. C'est vraiment l'image de la reine forte, de la reine incroyable, dure, froide, mais qui sait régner avec, enfin voilà, qui est juste, qui sait où doit se porter le pouvoir. Enfin, on est impressionné par Aliénor d'Aquitaine. Elle est décrite comme quelqu'un d'incroyable. Et je pense que ça valait le coup de raconter son histoire. Je pense que c'est une très bonne chose et je conseille ce bouquin à tout le monde parce que c'est l'image. En ce moment, en plus, je trouve que c'est hyper actuel parce que c'est presque une féministe de son époque. Hein. Une femme qui prend les libertés qu'elle a prises. Elle s'est quand même séparée de son premier mari, le roi de France Louis VII, si je me trompe pas.
C'est
je
pas Louis
plus.
XI, non
oui, allez, 11. Valérie, tu peux gagner un point.
Entre 7 et 11, il y a quoi, et 9, 10 au hasard, je veux dire Louis X.
Et non, c'était Louis XI.
Oh. C'était Louis XI.
Tu passes 11 sur 20.
Ah non, mais on n'avait pas dit que ça me tirait un point, dis donc.
Et ça, je crois, il me semble que c'est le premier divorce d'une reine par rapport à un roi de France, hein, dans l'histoire
Assez incroyable quand on voit qu'on est au XIIe siècle. Enfin, moi, je pensais même pas que c'était possible.
Elle aurait dû se faire trancher la tête direct.
Bah, là, mais elle a pris cette liberté, elle l'a fait. C'est vrai que là, c'est un vrai fait historique hyper important dans le livre, comme tout plein de choses qu'elle a fait, comme attaquer son deuxième mari, par exemple, quoi, décider de tuer son deuxième mari, Plantagenet, le roi d'Angleterre.
Oui.
Donc, c'est vrai que c'est une femme qui a pris des décisions fortes. Et je pense qu'un divorce, c'était la première fois effectivement que ça arrivait, mais c'est pas arrivé très longtemps après aussi. Hein,
Après, il faut remettre dans son contexte, bien que ça, personne n'ait divorcé avant, ça se faisait pas. C'est une époque où les provinces étaient aussi puissantes que l'État en général. Voilà, la province d'Aquitaine, avec tous ses seigneurs, ils avaient... Il y a des seigneurs qui avaient plus de pouvoir que le roi de France, finalement, qui devait composer avec eux. Et donc, elle s'est servie de ça pour voir en disant je peux divorcer. Et j'ai le soutien de tous ces seigneurs, de toute cette province d'Aquitaine, et ça sera pas mal perçu. Ça a quand même été mal perçu.
Il y a le poids de l'Église, quand même, à l'époque, qui est lourd. Enfin, c'est un personnage assez fabuleux. Pour moi, ça a été une vraie découverte géniale.
Donc ça, c'est pour l'histoire, pour l'écriture.
L'écriture. On a l'impression de lire une chanson de geste moyenâgeuse. Je trouve qu'il y a un rythme assez incroyable. Ça pourrait être raconté. Ça pourrait faire être dit oralement. Ce serait très chantant. Ce serait très vivant. C'est très très bonne qualité. C'est pas lourd, c'est pas pompeux, c'est facile à lire et l'écriture est de très très bonne qualité pour moi aussi.
Rien ne t'a dérangé dans ce livre ?
Eh ben écoute, comme ça, je dirais que non.
D'accord.
Moi, personnellement, non.
Le vocabulaire, il est pas trop technique, façon moyenâgeuse ?
Non, il me semble pas. Et si c'est le cas, on comprend toujours de quoi on nous parle. Je me suis jamais sentie perdue dans les faits, dans l'histoire. Ça a toujours été, pour moi, accessible. Non.
Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire d'Aliénor d'Aquitaine ou qui l'auraient oublié, hein, parce qu'on oublie les choses, c'est vraiment... C'est un personnage romanesque. C'est une tragédie shakespearienne avant l'heure, hein, finalement, Aliénor d'Aquitaine. Et qui est reconnue maintenant pour ça, parce qu'elle a une vie hallucinante, quoi.
Ouais.
Hallucinante qu'on retrace dans ce livre. Donc ce livre retrace aussi, focalise sur la période où elle essaye de monter ses enfants contre le roi d'Angleterre pour les faire aller en guerre contre ce roi qui lui a volé ses terres.
Notamment son fils préféré, on va dire Richard Cœur de Lion, que tout le monde connaît. Et il y a beaucoup de pages qui sont de son point de vue. Et moi, j'ai adoré en fait ce point de vue d'un fils qui est pas du tout objectif. Du coup, c'est vraiment un fils totalement en admiration devant cette mère, devant qui l'encourage, mais qui lui fait jamais de câlins, qui a jamais de tendresse pour lui. C'est une mère spéciale aussi. C'est une femme spéciale et c'est une mère spéciale aussi. Demander à ses enfants d'aller attaquer leur père, quand même, il faut le faire, quoi. Et donc, ce point de vue-là, moi, je l'ai trouvé vraiment, ça m'a vraiment charmée. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant, même si effectivement, là, on est dans la pure fiction, parce qu'on peut pas imaginer ce qu'il pensait réellement. Et donc, ça m'a charmée. Il y a aussi le fait que, ce personnage d'Aliénor, on parle d'une femme forte, etc., mais on parle d'une femme mécène également qui soutenait vraiment les arts, les artistes en son temps. Elle était toujours accompagnée de poètes. Enfin, c'est elle qui avait mis vraiment la poésie à la mode. Et ça aussi, j'ai trouvé que c'était une facette vraiment intéressante de ce personnage, effectivement, aux multiples facettes. Et ce qui m'a vraiment choquée à la fin, mais choquée positivement, c'est quand j'ai vu en fait que les lettres étaient des lettres véridiques, en oui. fait, que c'était des vrais extraits de correspondance de l'époque, alors que j'ai trouvé l'écriture hyper moderne. Enfin, la traduction doit y aider évidemment, mais c'est des lettres magnifiques, quoi.
J'avais pas fait attention à ça.
Et tout ce qui est en italique, voilà, est tiré vraiment de la vraie correspondance d'Aliénor ou de Richard Cœur de Lion. Et je pense que l'auteur, donc Clara Dupont-Monod, a dû vraiment s'inspirer de ce style aussi, parce que je trouve que les lettres s'imbriquent vraiment dans le récit, en fin de compte. Donc oui, elle s'est inspirée vraiment quand même de l'écriture de l'époque et de toute cette poésie et de cette imagination. Ouais. Donc ouais, c'est magnifique. Et en plus, je trouve que le livre est beau, la jaquette est belle pour une fois que voilà, le livre est tout doux. Il est bien.
Ça se lit vite, hein. Oui. C'est une écriture agréable. Moi, j'ai juste un point qui m'a dérangé, mais il faudrait que je rebondisse sur ce que tu viens de dire, parce que je ne sais pas si, du coup, ça fait partie d'une correspondance, donc ce qu'a écrit Aliénor est véridique ou pas, ou si c'est l'auteur qui l'a inventé. Elle parle à la fin, on arrive sur la période où Richard Cœur de Lion part en Orient pour combattre ses Saladin, voilà. Et il me semble que c'est Aliénor qui parle à Richard et qui fait un parallèle entre les futurs terroristes musulmans qui seraient ignares et qui seraient cachés dans des grottes à pas lire le Coran et à fomenter contre l'Occident. C'est un parallèle avec l'Al-Qaïda de nos jours et ça m'a un peu dérangé. Voilà, de prendre le passé pour imaginer un futur qui est dans notre passé actuel et qui s'est vraiment déroulé, je trouvais ça un peu lourdingue. Mais c'est
dans le cadre d'une lettre ou c'est dans le cadre du récit plus. Il faudrait voir, hein,
je
effectivement,
sais plus.
Parce que ça peut
voilà,
être...
Mais c'est juste...
Il me semble que c'est dans le cadre d'une lettre. Que voilà. Il y a des parties de lettres qui sont assez étonnantes sur ce sujet-là, qui sont hyper actuelles, toute la fin voilà. du roman qui porte sur sur les croisades.
L'auteur les a choisis peut-être aussi. Hein.
C'est extrêmement étonnant parce que elles peuvent être totalement remises dans le contexte d'aujourd'hui presque. Et c'est assez choquant
de dire
qu'au Moyen-Âge on a ce
Déjà ses a priori.
Oui,
en fait,
complètement.
Hein. Parce qu'après, quand Richard Cœur de Lion arrive en Orient, il découvre quand même, lui qui est passionné d'architecture et d'architecture de guerre, il découvre un savoir-faire incroyable.
Oui.
Quoi. Et donc, il loue ce savoir-faire et il en prend exemple. Après, bon, il pille aussi tout ça et il est assez sanguinaire aussi comme type. Mais il y a aussi tout ce côté de l'Orient en fait qui découvre. Aliénor, elle adore les épices aussi, elle jure que par ça. Enfin voilà, il y a des choses, il y a quand même encore un échange malgré la distance à l'époque qui était encore plus longue, quoi.
Voilà. Donc si ce n'est pas inventé par l'auteur, bravo, mea culpa. J'ai bien aimé aussi cette image que ressort ce Richard Cœur de Lion. On le voit enfant, on le voit adolescent et même adulte. Il paraît quand même un peu chétif, un peu en retrait. C'est pas l'image qu'on a de lui quand on entend Richard Cœur de Lion. On imagine tous le guerrier, tout ça. Et finalement, les rôles sont un peu inversés avec sa mère qui paraît justement qui perd ses terres, qui perd sa personne. Finalement, c'est plus qu'un ventre pour procréer, ce qui était le cas à l'époque. Hein. On attendait une descendance de la reine et pas grand-chose de plus. Et ça a été le premier personnage. Qui justement, elle, a apporté des troubadours, de l'art, de la vie et une vraie personnalité. Et on voit cette différence avec son fils qu'on imagine, au contraire, vraiment un guerrier, quelqu'un de sûr de lui, qui est l'enfant de sa mère, tout simplement. Mm-hmm. Et c'est très, très bien décrit, c'est très, très bien écrit. Ouais.
Mais on en a déjà parlé, c'est vrai, dans d'autres émissions, mais c'est-à-dire que des personnages féminins dans l'histoire, on retient plus finalement Richard Cœur de Lion que sa mère, même si sa mère, on en a déjà parlé. Mais c'est vrai, par exemple, dans le dessin animé Robin des Bois, il y a Richard Cœur de Lion, il y a Jean Santerre, mais il n'y a pas Aliénor d'Aquitaine, jamais. Enfin, c'est un personnage dont on recommence à parler et qui commence à être dans la lumière. Mais je pense qu'on a beaucoup plus parlé de Richard Cœur de Lion dans les livres d'histoire. Alors que c'est sa mère qui décidait un peu tout pour lui, quoi.
Absolument. Valérie, un mot sur ce livre ?
Bah écoute, du coup, j'ai lu les lettres qui étaient écrites pendant que vous parliez. Et c'est vrai que ça, c'est même étonnant. On croirait que c'était vraiment du contemporain. Si ce n'est qu'au lieu de dire qu'il fallait combattre ces Français, il voulait combattre les Francs. Mais sinon, les termes utilisés, le djihad, les choses comme ça, ça fait... Après, il a l'air très romantique dans ses descriptions. Mmh. Richard, il m'a tiré une larme là sur ce passage. Je suis émue, c'est pour ça que je ne vais plus en dire plus.
Ouais, c'est bien.
Oui. Bon, tout le monde a aimé. Du coup, il n'y a pas eu de débat pour ce premier livre.
Très bon livre à conseiller. Hein.
Et tout aussi bien, il n'y aura pas de débat sur les textes.
On ne sait pas.
On ne sait pas.
Mais justement, tiens, quel livre voulez-vous présenter ensuite ? Tiens, Héloïse.
Bon, on va peut-être rester en Orient. On va rester avec un livre d'une Française d'origine marocaine.
Mais on pourrait aller à Casablanca, par exemple.
Voilà, Casablanca.
Tout le monde est d'accord ?
Oui.
Petit voyage à Casablanca.
Myriam Alaoui, qui s'appelle...
La vérité sort de la bouche du cheval.
C'est la première à l'avoir lu, Valérie, à nous l'avoir vantée. Donc,
Eh bien, tout à fait. D'ailleurs, c'est peut-être à cause de... Suite à la lecture de ce livre, que je n'ai pas pu en lire beaucoup d'autres, tant il m'a été dur et long et pénible à terminer. Est-ce qu'on en parle du concours essaye de briguer ?
Alors, c'est un livre qui est également dans la sélection du jury du prix Goncourt. Ouais. C'est un premier livre de cet auteur. Je n'ai pas l'habitude de lire la quatrième de couve, mais je vais la lire pour un peu que nos auditeurs sachent de quoi on parle. Et c'est un très bon résumé.
Un trop bon résumé.
Jimia, prostituée de Casablanca, vit seule avec sa fille, femme au fort caractère et à l'esprit vif. Elle n'a pas la langue dans sa poche pour décrire le monde qui l'entoure. Son amoureux Shaïba, brut épaisse et sans parole... ou Halima, sa comparse dépressive qui lit le Coran entre deux clients, ou encore Moui, sa mère à la moralité implacable, qui semble tout ignorer de l'activité de sa fille. Alors moi, quand j'ai lu cette quatrième de couverture, je me suis dit, les clichés. Mais bon, ça reste une quatrième de couverture. Eh ben non.
Puis t'as ouvert le livre. Ça partait d'un bon sentiment, parce que le...
Voilà, c'est un journal intime, de cette prostituée, en théorie.
En théorie, ça commence le vendredi 11 juin à Casablanca. Et on croit que c'est vraiment raconté avec sa plume à elle, donc la plume de Jmia. Mais finalement, par moment, il y a des dialogues. Par moment, elle parle à la première personne. Par moment, elle parle à la deuxième personne. Et par moment, à la troisième personne. Donc moi, très vite, ça me perdait. Alors que je pensais lire son petit journal intime. Et par moment, c'est vrai qu'on retrouve bien la Jmia cliché, la Casablanca. La dame qui vit à Casablanca avec un bon caractère bien trempé, même attachante, parce qu'elle est moi je l'ai trouvée très attachante comme personnage, avec sa naïveté mais son caractère fort en couleur, parce qu'elle est un peu comme Aliénor d'Aquitaine, elle a un sacré caractère cette Jmia. Mais elle est naïve et des fois on a envie de la secouer.
Oui, elle est naïve, mais elle affirme haut et fort qu'elle n'est pas naïve, qu'elle sait tout, c'est madame, je sais tout, quoi.
Et elle est très moralisatrice sur les autres, et moi, c'est pas tant sur l'histoire, ma foi, si on la résume, c'est une histoire, c'est un petit, ça irait bien de le mettre en film pour TF1 à 15h un lundi après-midi.
Exactement.
Voilà.
Oui. C'est quand même un peu osé, des fois.
Mais tu peux censurer, t'es pas obligé de montrer les passes qu'elle fait.
Tu réécris quelques passages.
Voilà, tu mets du flou ou tu coupes, mais tu suggères. Mais l'histoire, ma foi, c'est sans parler de l'histoire, moi c'est la façon dont c'est écrit qui m'a beaucoup perturbée. Parce que l'histoire, après, on aime, on n'aime pas, c'est subjectif. Mais c'est ce changement, alors que clairement c'est un journal intime, puisqu'on a chaque fois le jour, la date, le lieu, le jour, la date, le lieu. Et de l'écriture, et on se dit c'est pas cohérent par rapport au personnage Jmia. Comment est-ce qu'elle peut, avec son alors c'est je suis pas méchante quand je dis ça, mais comment est-ce qu'elle peut, avec son intelligence, déjà écrire un journal aussi complet, utiliser des termes aussi parfois compliqués,
c'est une image, en fait, journal intime, c'est pas un journal intime.
Mais de la façon dont c'est présenté, si tu me mets mercredi 14 janvier, jeudi 15 janvier, samedi 17...
Tu peux mettre des titres pas avec des dates, hein, Valérie.
C'est vrai.
Oui, mais après, le premier chapitre, effectivement, ça commence avec je. Alors, on est parti, en fait, sur cette idée de témoignage et de journal, etc. Ouais. Et après, c'est vrai que ça change du tout au tout. Et moi, j'ai trouvé, tu dis, il y a quelques fois des dialogues, mais il n'y a que ça, en fait. fait. Oui, les dialogues qui sont pas forcément palpitants, qui sont pas forcément profonds. Enfin, je cherche pas la profondeur dans tout dialogue ou dans tout roman, mais c'est vrai que j'ai trouvé ça assez plat, et notamment dans les échanges, dans les dialogues. Ouais.
C'est une écriture qui se veut orale et donc avec un langage familier qui marche pas. Ça marche pas. Elle utilise de la vulgarité, de la grossièreté pour un peu dynamiser justement cette écriture. Et ça paraît facile du
oui,
coup.
Oui, c'est presque trop facile.
C'est ça.
Ouais. Tous les personnages sont faciles. Tout semble en tout cas facile.
Ça peut paraître de la littérature un peu à l'américaine, hein, voilà, avec des grossièretés, des messages directs, tout ça, mais elle n'y arrive pas, quoi.
Moi, j'ai l'impression. Faisait penser à ce qu'elle regardait à la télé quand elle décrivait, là, qu'elle regardait un peu les séries
un peu
télévisées, mais j'avais l'impression de lire. C'est pas logique ce que je dis, mais j'avais l'impression de lire une série télévisée. Et c'était ennuyeux à souhait. Enfin, je lisais deux pages et j'étais obligée de prendre un autre livre. Enfin, c'était ça m'a été laborieux. Enfin, non, j'ai mis trois semaines à le lire.
Moi aussi, je l'ai pas fini.
Tu l'as pas fini?
Moi, je l'ai pas fini non plus.
Alors moi, je l'ai fini. Et justement, tu parlais d'histoire. Tu disais au-delà de l'histoire.
Pour savoir qu'est-ce qui se passe.
Voilà.
À la fin,
Mais finalement, même l'histoire, en fait, moi, je trouve que c'était vide. On n'a pas envie d'avancer parce qu'on ne cherche, on n'est pas éveillé, on n'est pas curieux de savoir ce qui va lui arriver.
Ouais.
Et même quand on arrive à la fin,
je suis arrivée au bout.
Voilà, on est extrêmement déçu parce que c'est d'une. Enfin.
C'était prévisible presque.
Je pouvais même pas me prévoir quelque chose comme ça parce que ça me paraît tellement série télévisée du mercredi après-midi à 15h que je pouvais même pas m'attendre à ça. Je me disais au moins avec la fin je vais peut-être avoir quelque chose, et finalement même avec la fin j'ai pas ressenti
ce personnage de la bouche du cheval. Moi je pensais aller apporter une couleur,
le titre peut-être, parce que du coup la vérité sort de la bouche du cheval. Donc bouche de cheval, c'est un personnage qui arrive un peu après,
c'est une belge, qui vient à Casa et qui veut faire tourner un film sur les prostituées donc de Casablanca, et qui rencontre Jumia et qui va l'interviewer, passer du temps avec elle. Elles vont avoir une espèce de... Pareil, même l'amitié qu'elle crée, ça sonne faux, enfin, ces relations-là. Et donc, cette jeune fille qui vient faire ça en toute beauté, d'ailleurs, par contre, la Jumia trouve qu'elle a une bouche de cheval. Donc, elle l'appelle bouche de cheval pendant tout le livre. Mais pareil, même cette histoire-là, elle est lente, elle est pas... Elle manque de punch, elles se font dévirer, mais ça bouge pas, quoi.
Oui, ça apporte pas un petit coup de...
Non, dans le livre, moi j'avais espoir là de que ce bouche de cheval lui fasse ouvrir les yeux sur plein de choses, parce que, et sans parler de sa condition de prostituée ou de quelqu'un qui ne sait pas lire tout
ça. Au contraire, cette seconde partie du livre est encore moins bonne que la première, quoi. Les répétitions, les longueurs de répétition du tournage, etc.
Je crois que le seul personne que
ça
j'ai trouvé...
Ça se finit en happy end, à ce qu'on m'a dit, donc il ne faut pas le dire. Donc apparemment, faut pas dire l'histoire, mais c'est un happy end pour finir. Enfin, bref. Après, voilà. On va aider cette chère amie. Il faut dire que c'est quand même point positif. C'est un sujet sensible. C'est un sujet tabou au Maroc. Mm-hmm. C'est un sujet compliqué. En 2015-2016, il y a un film qui est sorti que je vous conseille de voir, Much Loved, qui parlait de la prostitution à Casablanca, mais plutôt prostitution de luxe, qui a complètement divisé la société marocaine à sa sortie. C'est un sujet dans cette société maghrébine qui divise. Voilà, parler du sort des femmes soumises à la volonté des hommes. Voilà, c'est pas facile.
Oui, même parler de sexe.
Parler de sexe, tout ça. Donc voilà, il faut dire. Après, voilà, au niveau de style d'écriture, on n'a pas spécialement aimé.
Non, mais on voit ce qu'elle a voulu faire, et c'est tout à fait noble de sa part, j'ai envie de dire, effectivement, d'aborder ce sujet, et d'aborder une ville qu'elle aime, telle que Casablanca, essayer de la décrire, essayer de porter la voix de ces femmes. Mais je trouve qu'au niveau de la manière, c'est pas réussi. Pour moi, c'est pas réussi. Et on est quatre quand même à ne pas avoir accroché.
Oui, sachant qu'on n'a pas du tout les mêmes goûts généralement en matière de littérature. Donc
ça va être le prix Goncourt, on va être beau là. Bientôt,
mais c'était arrivé il y a 2 ou 3 ans, je ne sais plus, tu sais, sur la femme qui était partie escalader une montagne et qui avait vécu dans une capsule.
Céline Minard, le livre de Céline Minard. Ouais.
Voilà, qui avait été primé. Et moi, je n'avais pas compris pourquoi est-ce qu'il était primé.
Et oui, non, mais voilà.
Donc,
mais
généralement, quand j'aime pas, ils sont primés. Donc, tout aussi bien, vu que j'ai vraiment pas aimé.
Mmh. Elle va l'avoir.
Après, c'est vraiment la première liste. Il reste plein de sélections. On verra. Hein. Mmh. Ça se trouve, ça sera Aliénor.
C'est ça.
En tout cas, ce sera pas Isidore. Ça sera bien dommage.
Mais on en parlera après la publicité, parce que là, on était au Maghreb.
La publicité.
La publicité.
C'est nouveau, ça.
Je me suis cru sur TF1, quoi.
C'est à cause de ce livre.
Hein. Ouais. Oh là là. Bref. Bon, tu vois Casablanca, tu vois le Maroc. Oui. On va partir vers l'Est.
D'accord.
Pour notre pause musicale.
L'Est, alors ça va, on va où?
Hein, on va où, Héloïse?
Dans les Balkans? Bien. Non? Je sais pas.
Pas du tout, on va en Palestine.
Ah, d'accord.
Alors, c'est Héloïse qui a proposé la musique.
Ah, le trio Jourdan.
Oui, parce qu'il passe demain soir au domaine des Boissés en concert à 17h. Ouais.
Voilà.
C'est super.
Dans l'ouverture des scènes croisées Lozère, Jourdan, on dit.
Jourdan?
Jourdan.
Jourdan.
Voilà, c'est ça. Allez, on revient après. Thank you. Voilà ce groupe palestinien, le trio Joudran, qui est au domaine des Boissés. C'est demain soir, c'est ce soir ?
Demain à 17h, ouais, pour une belle soirée.
Voilà, le domaine des Boissés, on le rappelle, hein, qui est en direction de Saint-Enimi. Vous tournez sur la gauche juste avant. C'est un endroit génial.
Magnifique, ouais.
Alors, que présente-t-on maintenant ? Il nous reste une demi-heure et deux livres, donc on est dans les temps, tout va bien.
Dont un qui a été lu que par deux personnes, Pauline et moi-même.
Allez, bah, écoute, on va te laisser le présenter. C'est Jérôme Ferrari, à son image, Valérie, qui est sur la liste du prix Goncourt ou pas du tout ?
Alors, je n'ai pas trouvé s'il était sur la liste du prix Goncourt. Ah, bon, quand on tape Jérôme Ferrari et Goncourt, évidemment, on entend parler de son livre qui a été primé en 2012. Là, j'arrive juste à voir qu'il a reçu par contre mercredi le prix littéraire du journal Le Monde pour le livre À son image, ce qui est déjà pas négligeable.
Ça vient de sortir, il a déjà un prix, quoi.
Oui, ben, mais il y a des prix qui sont rapides, ouais.
D'accord. Voilà,
ça dépend le montant du... Non, je continue à chercher pendant que Pauline et Héloïse, et je vous dirai s'il est en liste pour le Goncourt 2018.
D'accord, je vais chercher aussi alors.
C'est un livre donc, de Jérôme Ferrari qui s'appelle À son image. Jérôme Ferrari donc, qui avait eu le Goncourt pour le livre qui s'appelait Le Sermon de la chute de Rome. Et qui est un auteur en fait, qui vit en Corse et qui est professeur de philosophie en Corse. Et beaucoup de ses livres abordent ce territoire qu'il affectionne particulièrement. Il était assez proche des indépendantistes aussi à une époque. Maintenant, il s'en est un peu détaché et ça se voit dans le livre. Donc du coup, À son image, c'est l'histoire en fait, d'une jeune fille qui s'appelle Antonia. Je peux vous raconter le premier chapitre. En fait, elle traîne en ville, elle est photographe, elle fait des photos de mariage, en fait, assez kitsch, enfin, normal, sur la plage, etc. Et elle rencontre, en fait, quelqu'un de la Légion étrangère, pardon, qu'elle a rencontré il y a des années, quand elle couvrait la guerre des Balkans. Elle va boire un coup avec lui, et après, donc, elle prend le volant tard dans la nuit, elle rentre chez elle, et elle a un accident de voiture, et elle décède. Voilà, donc ça, c'est vraiment le premier chapitre. Où on découvre ce personnage qui va nous suivre tout au long du livre, donc Antonia, et qui va nous hanter de son passé.
Il n'est pas dans la sélection.
Il n'est pas dans la sélection, non, d'accord.
On reste sur le cheval.
Autant pour moi.
Et sur Clara.
Et donc voilà, donc, on démarre par sa mort et on va en fait, essayer de scruter un peu son passé, son adolescence. Qu'est-ce qui l'a amené à cette véritable passion de la photo-reportage ? La relation très particulière et très, très sentimentale qu'elle a avec son parrain qui est curé et qui du coup, le parrain qui revient tout au long du livre parce que c'est lui qui officie pendant l'enterrement de sa filleule, oui, pardon. Voilà. Et donc, il y a tout un tas de choses, voilà, qui vont intervenir, notamment, l'indépendantisme en Corse. Elle était proche des indépendantistes parce que son petit ami l'était. Donc on parle de la Corse, beaucoup de photographies et de la guerre aussi, de la guerre des Balkans, Yougoslavie, etc. Qu'elle a couvert en fait à son compte, elle est partie toute seule grâce à cette passion du photoreportage. Et au milieu de tout ça, donc de la vie d'Antonia, il y a des chapitres aussi qui sont purement en fait de l'histoire de la photographie, donc de la photographie-reportage. Donc on s'attache à des photographes plus ou moins célèbres, à des photos plus ou moins célèbres de ce style photographique. Et donc ça intervient au milieu du récit d'Antonia, cette histoire de la photographie un peu académique à mon goût. Voilà. Je vous ai raconté l'histoire. Pauline, je te laisse commencer pour ton avis.
Mon avis, je pense que vous l'avez peut-être déjà ressenti en écoutant les explications d'Héloïse, c'est que ça, moi, j'ai trouvé que ça partait un peu dans tous les sens. Je savais pas trop où on en était, pas trop ce qui se passait, parce qu'il y a un aspect supplémentaire que t'as pas évoqué sur son parrain. Quand c'est lui qui s'exprime, il a de gros temps de réflexion sur la religion, etc., qui viennent un peu comme un cheveu sur la soupe parce que c'est pas du tout le thème du livre. Enfin, moi, j'ai eu du mal à comprendre où ça allait. J'ai eu l'impression que l'auteur avait envie d'aborder des tas de thèmes sur lesquels il a énormément de connaissances parce que par contre, on sent que c'est cultivé, c'est plein de voilà, c'est pas vide de sens. C'est quelqu'un qui sait de quoi il parle, mais finalement. moi, ce qui m'a gênée, c'est qu'il parle justement de trop de choses et on ne sait pas vraiment d'où ça vient. Ces portraits de photographes sont intéressants, c'est sûr. Hein, quand si j'avais lu que des portraits de photographes, comme il les a écrits, j'aurais sûrement appris des choses sur la photographie de guerre et c'est le reportage de guerre et c'était voilà intéressant. Mais ça vient sans qu'on s'y attende, sans comprendre trop pourquoi, sans être bien sûr de qui nous parle de vrais photographes. Enfin, moi, j'ai été extrêmement perdu dans ce bouquin et je savais pas vraiment où il voulait en venir. Est-ce qu'il avait envie de nous parler du nationalisme corse, de la guerre en Yougoslavie? Est-ce que pour moi, il aborde trop de thèmes et même si l'écriture est de très bonne qualité et c'est très bien écrit, ça c'est un de ses gros bons points, je dirais pour moi à ce livre. Par contre, c'est trop éparpillé et il a pas su se fixer sur délimiter pour moi son sujet. Alors je dis pas qu'il faut parler d'un thème et d'un seul thème, mais là c'était pour moi c'est trop parti dans tous les sens, je me suis perdue dans ce bouquin et du coup je me suis attachée à rien ni à personne et j'ai pas ressenti grand chose. Ça m'a pas touchée alors que je pense que ça aurait dû me toucher. J'aurais dû être touchée par quelque chose.
Pourtant, on lui dit, Jérôme, recentre-toi, il nous écoute. Non,
mais il écoute depuis qu'il a eu le concours en 2012. Il a
Non, il écoute personne. Héloïse, tu partages l'avis de Pauline?
Oui, effectivement, c'est vrai que... Bon, moi, j'ai été touchée par une chose, et c'est une des choses qui t'a gênée, mais j'ai été touchée quand même par cet aspect religieux, bizarrement. J'ai été touchée par cette foi, par cette espèce de personnage... c'est vraiment le seul que j'ai trouvé assez touchant, en fait, ce prêtre là, ce parrain, et cet aspect de réflexion sur la religion
dans leur discours.
Ah d'accord, pardon, j'étais autre.
Non, okay. ça m'a un peu touchée parce que ça allait un peu plus haut, je trouve, que le reste du livre et ça permettait une réflexion au moins, parce qu'après c'est vrai que pour moi le personnage d'Antonia, il a pas vraiment de consistance. Pour moi, c'est pas, enfin, j'imagine pas une jeune fille qui puisse exister, que je puisse imaginer, contrairement à Isidore dont on va parler tout à l'heure. Et pourtant, Isidore était quelqu'un d'assez original. Mais là, voilà, Antonia, j'ai du mal à comprendre cette personne. J'ai du mal à l'imaginer vivre, à l'imaginer faire ses choses. Et par exemple, voilà, elle part à son compte quand même en Yougoslavie, couvrir la guerre avec son petit appareil photo. Et voilà, elle est accueillie là-bas, elle arrive à aller sur le front, elle arrive à faire des choses. Enfin, je suis pas sûre que ça soit des choses qui soient vraiment possibles. Enfin, je sais pas, j'ai pas trouvé une espèce de réalité tangible, en fait. Et ça m'a un peu gênée. Après, effectivement, les chapitres sur les photographes célèbres étaient tout à fait intéressant, mais encore une fois, j'ai du mal à voir le parallèle qu'il veut faire avec Antonia, parce que pour moi, Antonia n'est pas une photographe reporter, elle est allée quelques semaines là-bas, elle n'a pas non plus, elle n'a pas la consistance, en fait, de ces personnages réels historiques que l'auteur nous décrit. Donc, du coup, voilà, le parallèle n'a pas lieu d'être.
Peut-être qu'il a fait ça justement pour essayer de lui créer une autre vie, hein, puisque ça, en partant de la fin de sa vie, peut-être c'était vraiment pour essayer de dire voilà, on peut la comparer à ses photographes.
Est-ce qu'elle aurait pu être parce que c'est un peu l'histoire d'un échec, hein, tout ce qu'elle entreprend, c'est tout est un échec. C'est assez triste.
Oui, parce que sur la fin de sa vie, elle fait des photos de mariage.
D'accord.
Et elle a abandonné en fait le fait d'aller aux quatre coins du monde et de révéler la vérité aux gens dans les journaux, etc. Donc c'est vrai que c'est aussi l'histoire d'un échec. Ouais. Et justement, le prêtre s'en veut beaucoup parce que c'est lui qui lui a offert son premier appareil photo et qui a déclenché en fait cette passion. Et la culpabilité de cet homme amène à je trouve, des réflexions assez intéressantes. Voilà. Mais bon, le livre m'a vraiment pas charmé, ouais. Je l'ai lu, je l'ai fini, contrairement à La vérité sort de la bouche du cheval, mais ça m'a pas charmé.
Moi non plus.
D'accord, et dis donc.
Ludovic, qu'est-ce que tu en penses?
Non, je suis pas fan de Jérôme Ferrari. Ouais, c'est comme ça. D'accord, donc on conseille pas trop non plus.
Bah, à moitié, après.
À moitié, voilà.
C'est pour des gens qui aiment le style de Jérôme Ferrari, apparemment, voilà, c'est très.
Ouais.
comment dire, c'est pareil. Mmh. Et les gens qui sont charmés par ce style et par cette espèce d'académisme et de vouloir aussi apprendre des choses tout en lisant, et ben ça, je pense que ça peut leur plaire. Mais bon, après, voilà.
D'accord. Et en plus, il doit avoir son public, j'imagine.
Oui, oui. Jean
Ferrari. Oui. On n'a pas donné les maisons d'édition, mais ici, chez Actes Sud, on va reprendre dans l'ordre de départ Clara Dupont Mono, on dit.
La Révolte. Mono, je pense.
Ouais, Mono. J'aurais dit Mono aussi.
C'est chez qui ?
Chez Stock.
Chez Stock. Et notre ami...
bien chez Gallimard Meister.
Ah oui, c'est Gallimard. Malala,
oui, oui, Gallimard, collection blanche.
Cette grande maison d'édition.
Incroyable.
Voilà.
Quand même, ce qui serait fabuleux, c'est que sur le dernier livre, en fait, un peu comme sur La Vérité sort de la bouche du cheval, où on a tous les quatre pas aimé, qu'on ait eu tous les quatre un gros coup de cœur.
Tu crois ?
Ce serait énorme, en fait. Ça bouclerait un certain cycle et... Moi, ça me plairait beaucoup.
Comme tu l'amènes super mal.
Mais ouais, j'ai fait de mon mieux.
Allez,
vas-y,
ouais.
Fais mieux pour voir, pour l'amener.
Non, je ne ferai pas mieux que toi.
Bon, eh bien, écoute.
C'est compliqué.
Vous allez donc tous devoir vous plier, à mon avis.
Alors, Camille Borda ou Bordas
Moi, je dirais Bordas.
Bordas. Absolument. Isidore et les autres jeunes écrivains de 23 ans qui nous présentent ce livre, Valérie. Que l'on a tous adoré. Voilà.
Justement, et si on l'a tous adoré.
C'est un livre.
On va bien en parler.
Voilà. Et vu, pareil, le synopsis de départ, etc., moi, c'est un livre que je n'aurais jamais lu. Et mal m'en aurait pris, car c'est vraiment excellent. Mais vraiment, vraiment,
je pense
vraiment.
Je pense qu'on pourrait applaudir Camille.
Bravo.
Ouais, bravo.
Ouais, bravo, Camille.
Camille, qui, on le rappelle, n'est pas dans la liste du prix Goncourt cette année.
Non, mais parce qu'elle est en dehors.
Elle a pas que le Goncourt.
Voilà.
Oui, elle a pas trop l'esprit Goncourt, elle. Vous...
Marcus Malte avait eu le prix Fémina pour le garçon il y a deux étés et ça méritait largement un Goncourt.
Ouais. Alors, avant de commencer, est-ce que vous voulez une petite histoire
un
peu people sur ce livre?
Ah oui,
on adore ça.
Donc Camille Bordas a écrit un premier livre, c'est pas son premier roman, elle a écrit un premier livre en fait où une jeune fille rencontre un musicien américain où elle va vivre là-bas. Et donc, Camille Bordas, dans sa vraie vie, est invitée à une soirée littéraire aux éditions Inculte, au siège de la maison d'édition qui édite Isidore et les autres. Et elle rencontre un auteur américain qui est édité chez Inculte. Et elle va vivre avec lui là-bas aux États-Unis. Ce livre a été écrit aux États-Unis. Et elle l'a offert aux éditions Inculte pour les remercier d'avoir rencontré son amoureux.
Oh, c'est tellement beau.
Ah, bah, ça le rend encore meilleur.
Voilà,
hein. Bah,
c'est le summum.
Comment ça, offert ?
Eh ben, c'est-à-dire qu'au niveau des droits, je pense que voilà, hein, c'est bon.
Elle aurait pu le vendre à une autre maison d'édition.
Et ce livre a été édité d'abord aux États-Unis. Elle l'a traduit de l'anglais au français, alors qu'elle est française, en fait, pour les éditions Inculte, pour qu'il l'édite en français. Et il a beaucoup marché aux États-Unis.
Elle est journaliste, enfin, elle fait des chroniques. Je crois que c'est au New Yorker ou sur des journaux de New York, je ne sais plus lequel, et qui a de très très bonnes critiques aux États-Unis. D'ailleurs, il est traduit en 10 langues maintenant. C'est dire ça, il a 400 pages. Alors, c'est l'histoire, on va expliquer un peu l'histoire rapidement. Qui veut l'expliquer ? Je l'explique ou Valérie ?
Non, vas-y, on
Je te sens tendue.
Non, on prendra, j'ai beaucoup d'émotions.
Trop de pression.
En fait. Voilà, ouais. Je voudrais pas mal le faire.
Donc, c'est Isidore qui a 12 ans, qui veut qu'on l'appelle Dory. Seulement, c'est sa fratrie, ses parents l'appellent Izzy. Oui, il l'appelle Izzy, mais lui, il aimerait qu'on l'appelle Dory. Il a deux frères, trois sœurs. Il vit dans la même chambre que l'une de ses sœurs, Simone, qui a 13 ans, s'apprête à intégrer une classe prépa et qui veut faire de lui son biographe en prévision du jour où elle sera internationalement connue. Ses frères et ses sœurs sont tous surdoués, ils sont tous brillants, ils sont tous thésards où ils vont l'être. Ils sont tous obnubilés par les études et la connaissance. Donc, du coup... Ils sont tous socialement inaptes par dédain pour le commun des mortels. Sauf que Isidore, lui, fait partie du commun des mortels dans toute cette fratrie. Il n'est pas incroyablement intelligent, comme ses frères et sœurs. Il n'est pas vraiment beau. Bref, c'est un garçon de 12 ans qui vit son adolescence dans cette famille-là. Alors sa mère, par contre, lui trouve une sensibilité qu'en n'ont pas ses autres frères et sœurs. C'est
l'empathie,
petit dernier.
C'est le seul qui a développé l'empathie dans la famille.
Voilà. Et son père, on va pas trop en dire non plus, non. Quoi. Il a un père qui est souvent absent, qui est traducteur d'allemand, qui n'est pas souvent là. Donc il imagine, il pense que c'est une couverture, que son père est un espion. Ce qu'il n'est pas du tout, hein, il est vraiment traducteur. Et lui, justement, il essaye de se trouver une place au milieu de cette famille-là. Sa mère arrête pas de dire à ses enfants, sortez votre nez de vos livres et essayez de vivre votre aventure. Donc du coup, lui, il va essayer de fuguer en se disant, je vais faire plaisir à ma mère, oui. Sauf que personne ne se rend compte qu'il fugue tout le long. Alors donc, vous l'avez compris, c'est très très drôle. C'est très intelligent, c'est très bien écrit. Ça peut être philosophique par instant. C'est des personnages atypiques, c'est un peu du Wes Anderson.
Mais c'est marrant, je l'avais noté dans ma chronique, je m'étais dit c'était un mélange entre Wes Anderson, John Irving, tous ces personnages un peu atypiques, qui sont pas forcément hyper sympathiques. Ses frères et sœurs, ils sont même plutôt antipathiques. Et malgré tout, on a vachement envie de les rencontrer. Ouais. On les adore. Et puis, je vois nos têtes là, rien que d'en parler. On a tous l'air un peu bêta parce qu'on a tous le sourire parce que, on se sent comme ça quand on lit Isidore et les autres. C'est un peu, on se sent un peu niais, c'est bizarre, mais on sourit parce qu'on se sent bien, on se sent très très bien, on a envie de rencontrer tout ce petit monde un peu, atypique, un peu particulier.
Et on retrouve, moi, c'est ce que ça m'a donné l'impression, je me retrouve dans chacun des personnages.
Oui.
Il y a un petit point de chacun des personnages, je me dis, tiens, c'est un peu moi ça. Que ça soit lui ou ses frères ou ses sœurs ou la mère ou le père, je sais pas, c'est l'impression que j'ai eue.
Oui, mais c'est des personnages effectivement qui semblent, mais dès les premières pages, qui semblent assez familiers. Ils ont tout de suite des marqueurs en fait, et même s'ils sont beaucoup en fait, on les reconnaît tout de suite quand on voit qui c'est. Ils ont vraiment une présence incroyable, et c'est vraiment fascinant comme tout ça s'articule en fait, et tout est du point de vue en fait d'Isidore aussi. Donc il y a ce charmant point de vue, c'est vrai qu'il a beaucoup d'empathie et qu'il est très sensible et qu'il le cache pas, quoi. Pour un gamin de 12 ans, c'est quand même pas mal, quoi. Et moi j'adore son regard en fait sur le monde, qui est très bienveillant en fait, qui est vraiment bienveillant. Et drôle, quoi.
Il y a contrario ce regard de ses frères et sœurs, mais qui n'aiment pas finalement les gens parce que.
Ouais, mais ils n'aiment pas les gens, mais ils ne sont pas antipathiques.
Mais ils ne sont pas antipathiques.
C'est ça, parce que tu peux ne pas aimer les gens et être antipathique.
C'est un peu la conjuration des imbéciles qu'on aime beaucoup, où on trouve ce personne-là. C'est un peu lui.
C'est ça.
Sa sœur Simone, donc, qui vit avec lui dans sa chambre, lui dit à un moment : je veux bien que les hommes naissent libres et demeurent. Non. Je veux bien que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Mais s'ils décident de grandir sans ouvrir un bouquin, rien ne m'oblige à subir leur conversation. C'est ce dédain qu'on a, que tous ses frères et ses sœurs ont envers les autres, et ils lui expliquent pourquoi. Mais les conversations sont pas intéressantes. Pourtant, ses frères et ses sœurs vont aller écouter ce que les gens disent parce que ça les intéresse quand même. Et au final, au bout de 20 minutes, on part parce que les gens sont tellement peu intéressants. Et lui, Isidore comprend pas ça, mais il écoute ses frères et sœurs.
Et en même temps, tous ses frères et sœurs, comme sa mère, vont vers Isidore.
Ils vont
lui confier des choses, leur parler vraiment de leur vie, et ils essayent en fait de...
Puis ils sont attentionnés les uns avec les autres, même s'ils donnent l'impression, justement, comme tu disais Ludo, qu'ils étaient socialement inadaptés, malgré tout, dans leur cercle familial et scolaire, ils ont quand même...
Ils sont très proches, ils sont très...
La grande sœur, elle crée quand même un lien en dehors, enfin, il y a quand même ce côté social, mais à leur façon, et c'est tellement attachant de voir ça, ils sont... Ils sont superbes, ils sont beaux, ils sont pleins de couleurs, ils sont.
Oui, non, ils sont très soudés, effectivement. Et moi, j'aime beaucoup quand ils font leur espèce de. Quand ils rencontrent quelqu'un qu'ils ne connaissent pas et qui commence à lui poser des questions. Et c'est un peu le chat qui joue avec la souris vivante, quoi. C'est des scènes quand même aussi très, très drôles, quoi. Il y a des moments aussi tristes. Enfin, il y a de tout, en fait. Ouais. C'est vraiment.
On passe par beaucoup de sentiments, c'est vie, étonnant, hein.
La pauvre correspondante. Non, c'est
Simone, en fait, sa sœur, qui est obligée, bien malgré elle, de recevoir une correspondante, mais pas étrangère,
non,
de France.
Ce qui est bien, c'est qu'on ne sait pas aussi où est-ce qu'ils habitent,
d'Alsace.
Les autres. Non, Isidore et les autres, on ne sait pas d'où ils sont.
Ah non, non, non. Je ne sais pas si on le dit, si elle le dit pas.
Ma ville, à un moment donné, ils ont commencé à parler d'Ardèche. Et justement, Simone a répondu en disant, en fait, ta mère t'a trompé, on n'habite absolument pas en Ardèche. Mais je t'invite à regarder la carte que je te joins. Et je t'ai mis des annotations, d'ailleurs, dessus.
Donc voilà, Simone est très sérieuse, effectivement, avec sa correspondante. Et elle n'arrive pas à comprendre pourquoi elle lui parle de Titanic ou de DiCaprio. Elle ne comprend pas, en fait, l'intérêt. Et quand cette pauvre fille, en fait, cette adolescente normale, finalement, arrive chez elle, elle rencontre un Isidore, une bonne oreille, parce que sinon, Simone, elle n'est pas
une bouffée d'oxygène très
accueillante.
Ah, c'est vraiment...
Wow. Non, mais c'est plein, effectivement, de petites anecdotes et de petites scénettes comme ça qui marquent et qu'on a envie de relire, finalement. On a envie qu'il y ait un film, on a envie de revoir ça, on a envie de...
Ouais. Alors, c'est une écriture, donc on l'a dit, assez fluide. C'est une très belle écriture, hein. Il n'y a rien à dire sur ça. Il y a des thèmes qui sont forts dans ce livre, quand même, qu'on retrouve, le thème de la mort.
Oui, il y a eu à plusieurs reprises.
Voilà, la mort soudaine, par vieillesse, par suicide. Mais on n'est pas dans le pathos, c'est toujours assez sensible, ça a amené de manière sensible. Autre sujet omniprésent, la question de l'intelligence. On l'a un peu dit dans cette chronique, mais qui est à la fois mis sur un piédestal et également moqué. Donc on a toujours ce mélange entre deux genres. Ça parle aussi de l'adolescence, bien entendu.
Et oui, ça, c'est
lui découvre tout seul ce qu'est la puberté. Il découvre l'internet. Il découvre comment on construit la difficulté à construire son identité.
Oui, l'isolement au collège.
Le deuil, l'amour, l'isolement au collège. Après, je sais pas si vous avez vu d'autres thèmes. D'autres
après,
qui vous viennent.
L'amitié, les relations, effectivement, entre les gens, quoi. Oui, les relations humaines, je pense que c'est un sujet important aussi, ouais.
Qui veut lire un extrait?
Lequel?
Valérie, tu as un blâme.
Non, mais je ne lis pas, je passe à Pauline.
Non, mais en fait, c'est Camille qui va nous lire un extrait.
Ah,
j'étais persuadée que si je fuguais, ça ferait plaisir à ma mère. Elle se plaignait tout le temps qu'on n'était pas assez aventureux. Ça ne faisait ni chaud ni froid à mes frères et sœurs, qui étaient indifférents aux opinions d'autrui en règle générale. Mais moi, je prenais ça à cœur. J'étais le dernier des six et je ne voulais pas qu'on m'attribue les bizarreries des autres. Je voulais être unique, moi-même, différent. En même temps, j'avais pas trop le choix. J'étais moins beau et moins intelligent que les autres. Mais je n'avais pas non plus d'idée précise de ce que je devais être. Alors je me disais que je pouvais au moins essayer d'être ce que ma mère voulait qu'on soit et donner sa chance à l'aventure.
Voilà, un court extrait qui est disponible sur le site des éditions Incultes où elle lit des passages, où elle explique. Il y a donc on la voit dans sa bibliothèque où elle explique un peu son livre. Elle dit c'est très dur de parler de ses livres. Moi, j'aime pas parler des livres des autres parce qu'on a peur de trop en dire, de passer en dire, etc. Et elle présente son livre sur 8 points. Elle dit ben voilà, pour présenter mon livre, je vais vous dire 8 points. Isidore veut être professeur d'allemand. Isidore vit dans la fratrie, dans une fratrie de génie, etc. C'est très très drôle, c'est à voir.
Oui, mais ça a l'air d'être une chouette personne.
Troisième roman, hein, il me semble.
Troisième roman, et j'ai pas lu les premiers, je connaissais pas, et je pense que je m'y attellerai.
Ouais, ça donne très très envie, parce que c'est fluide comme lecture, c'est pas pompeux, c'est accessible tout en apprenant plein de choses. Vraiment, c'est magnifique.
Ah, ça fait du bien.
Ça fait du bien, oui.
Et je pense que ça peut être lu aussi par des ados.
Oui.
Même si c'est un peu long, je pense que ça pourrait accrocher avec un public adolescent, lycée évidemment.
Oui, je suis d'accord aussi.
Oui, mais c'est long en quantité de pages. Mais comme le verbe, il est pas compliqué, les phrases sont bien amenées, il y a plein d'humour. Puis même ça peut aussi, je trouve que ça redonne une dimension humaine aux bons élèves.
Oui.
C'est un peu j'ai trouvé qu'il y avait un peu une réhabilitation du premier de la classe qui était pas moqué, qui était pas l'intello. Non, ils ont quand même leur couleur.
Voilà. Mais il y a cette balance aussi, parce que c'est une réhabilitation du dernier, enfin du mec commun comme Isidore justement,
qui a sa place aussi
et pas aimé, qui non. Bravo l'artiste. Allez, on est tous d'accord. C'est 13h25. On arrive à la fin de cette émission. Dans 2 semaines, chère Héloïse, que se passe-t-il?
Alors,
tous les regards convergent vers toi.
Bon, allez, on doit la vérité à nos auditeurs. Allez, je vais dire la vérité. On devait présenter la rentrée littéraire étrangère, sauf que Valérie n'a pas lu ses livres.
C'est faux. C'est faux, je le revendique haut et fort.
Et donc, nous allons changer et la présenter dans un mois et dans deux semaines, du coup,
Héloïse. On va se consacrer soit à des albums jeunesse, soit à des bandes dessinées. Il y a pas mal de sorties de toute façon en ce moment. Donc, on va décider tous ensemble. On va vous faire une belle émission.
On va faire un vote.
On peut faire un vote.
On va faire un vote.
Voilà, ça sera la surprise.
Non, mais parce que la rentrée littéraire étrangère, il faut dire que Ogawa Ito, encore une fois, a mis la barre tellement haut. Qu'il va falloir trouver des livres à sa hauteur pour pouvoir être unanime lors de la prochaine émission. Mmh. C'est pour ça. Ce n'est pas, absolument pas parce que je n'ai pas lu les autres livres.
Très bien, Valérie. C'est
merci.
Noté. Merci à toi.
Voilà, voilà.
Allez, et comme dirait l'autre, hein...
au revoir.
La lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. Et s'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein dans la rue. Il y en a plein les commissariats, plein les directionnels, plein votre vie. Tout le monde a une histoire.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de littérature où seul le style, seuls les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.